vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel. Dernière partie de RFI Midi, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Avec un dossier consacré à la situation sécuritaire haïtienne, le gouvernement a renouvelé hier l'état d'urgence pour un mois supplémentaire. On revient aussi sur la convention démocrate américaine, elle se déroule en ce moment. Kamala Harris accumule les soutiens. Dossier également sur le Venezuela où les habitants fuient le pays en raison de la crise socio-économique qu'ils traversent depuis maintenant 15 ans. Et puis l'actualité des Outre-mer. Avec vous, Benoît Ferrand, et on revient sur cette étude qui démontre un lien de causalité entre exposition au chlordécone et pathologie cardiaque.
Étude réalisée à Montréal, au Canada, et avec la participation d'une jeune doctorante guadeloupéenne que nous entendrons tout à l'heure.
À tout à l'heure, Benoît, on vous appelle dans 20 minutes. Et d'abord le journal avec Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Aux États-Unis, la convention du Parti démocrate se tient jusqu'à jeudi à Chicago.
Oui, après avoir rendu hommage hier soir à Joe Biden, les démocrates vont adouber aujourd'hui Kamala Harris et son colistier Tim Walz. Leur investiture a déjà été formalisée lors d'un vote en ligne. Elle sera confirmée ce soir par les représentants de chaque État américain qui s'avanceront un à un. Le Parti démocrate a promis une journée de fête à Chicago avec Barack Obama et Michelle en invité de marque. À Chicago, toutes les grandes figures du parti sont là. Il y a aussi Hillary Clinton, battue par Donald Trump en 2016. Dans son discours hier soir, elle a soutenu Kamala Harris et épinglé son rival républicain. Un extrait.
Il y a toujours le choix. Est-ce que l'on avance ou est-ce que l'on recule? Est-ce que nous nous unissons ou est-ce que nous nous divisons, nous d'un côté et eux en face? C'est le choix auquel nous sommes confrontés dans cette élection. Regardez les candidats. Kamala se soucie des enfants et des familles. Elle se soucie de l'Amérique. Donald ne se préoccupe que de lui-même. Kamala a le caractère, l'expérience et la vision nécessaires pour nous faire avancer. Je connais son cœur et son intégrité. En tant que présidente, elle nous soutiendra toujours. Elle n'aura de cesse de défendre notre liberté et notre sécurité. Elle n'enverra pas de lettres d'amour aux dictateurs. Elle défendra la démocratie et notre constitution et protégera l'Amérique des ennemis intérieurs et extérieurs. From enemies, foreign and
domestic. Hillary Clinton à la convention du Parti démocrate.
Et face à Kamala Harris, Donald Trump, en retard dans les sondages, il est prêt à tout pour attirer de nouveaux électeurs, Gilles.
Oui, le candidat républicain a prétendu ce week-end avoir le soutien des fans de Taylor Swift. Il faut dire que la chanteuse et sa communauté, les Swifties, sont très convoitées actuellement aux États-Unis. En guise de preuve, Donald Trump a publié des photos sur son réseau Truth Social. Or, Grégory Genevrier, ce sont des images générées par l'intelligence artificielle.
Taylor Swift veut que vous votiez pour Donald Trump. Voilà le message trompeur affiché sur l'une des images publiées par le candidat républicain. On y voit la chanteuse américaine reprenant la célèbre pose de l'oncle Sam, le doigt pointé vers l'objectif. « J'accepte », commente Donald Trump, suggérant un soutien massif des fans de Taylor Swift. Sa publication comporte aussi plusieurs photos de jeunes femmes sourire aux lèvres portant un t-shirt « Les Swifties avec Trump ». Mais en réalité, ces images sont fausses. Elles ont été générées par l'intelligence artificielle. On retrouve d'ailleurs leurs traces sur un compte X ouvertement satirique avant la publication du septuagénaire. Si une fan de la chanteuse a bien été photographiée avec un t-shirt soutenant Trump, c'est visiblement un cas isolé. Il est faux d'affirmer que les Swifties se sont ralliés derrière le ticket républicain. Rappelons enfin que Taylor Swift, qui n'a jusqu'ici pas pris position, a toujours soutenu le camp démocrate.
Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de la rédaction. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, poursuit sa tournée au Proche-Orient. Arrivé ce matin en Égypte, il s'est entretenu avec le président Al-Sisi sur les moyens de faire avancer les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza. Anthony Blinken est maintenant attendu au Qatar. Dans le même temps, l'armée israélienne annonce avoir récupéré dans la bande de Gaza les corps de six autres otages décédés. Une ancienne otage avait expliqué que les 6 hommes étaient retenus ensemble dans un tunnel après leur enlèvement par le Hamas le 7 octobre.
À 15h05 ici à Paris, les autorités redoublent de vigilance, même s'il n'y a toujours pas de cas déclarés de variole du singe en France.
Oui, depuis la circulation active de la nouvelle souche du virus en Afrique centrale, le gouvernement français a placé le système de santé en état de vigilance maximale. Il se prépare à voir apparaître des cas sur le territoire national. De son côté, l'Institut Pasteur de Paris est prêt à tester et à vacciner à la demande des autorités. Le point avec Olivier Sherman.
Analyser, tester, vacciner, voilà le plan de bataille de l'Institut Pasteur. Analyser tout d'abord afin d'identifier la maladie. La CIBU, la cellule d'intervention biologique d'urgence, petit joyau de technologie et de recherche de l'Institut, est déjà activé. Le laboratoire analyse les prélèvements suspects réalisés notamment dans les hôpitaux pour établir un diagnostic de Mpox. Tester ensuite, le centre médical de l'Institut, spécialisé en médecine de maladies infectieuses tropicales, est en alerte. Des patients présentant des symptômes évocateurs de Mpox qui se présenteraient en consultation pourront y être testés dans des conditions optimales de sécurité. Vacciner enfin. L'Institut Pasteur peut vacciner dans ses murs toutes les personnes issues des populations ciblées par les recommandations sanitaires. Avec la circulation active, avertit l'Institut Pasteur, de cette nouvelle souche de Mpox, il est probable que des personnes soient touchées en France. Il s'agit, selon l'Institut, d'une situation sanitaire sérieuse qui requiert toute notre vigilance.
C'était Olivier Sherman, du chef du service France. En France, précisément, les Jeux Olympiques de Paris sont passés. Place aux Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur démissionnaire, annonce que jusqu'à 25 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité de ces Jeux Paralympiques. Selon lui, il n'y a pas à ce stade de menace caractérisée visant ces Jeux.
En Chine, Gilles Moreau, le changement climatique a des conséquences multiples.
Oui, au moins 50 morts dans les inondations de la fin du mois de juillet, selon le tout dernier bilan officiel. Les inondations avaient été provoquées par un typhon dans le centre de la Chine. Autre conséquence du changement, depuis 7 ans, les esturgeons ne se reproduisent plus naturellement. Explication de notre correspondante Cléa Broderst.
L'incapacité de l'esturgeon chinois à se reproduire naturellement est un indicateur de la grave dégradation de son habitat naturel. Cela souligne le besoin urgent de renforcer les efforts de conservation, selon le professeur Chi Weiwei de l'Institut de recherche sur les pêches du fleuve Yangtze.
Dans l'écosystème, ils jouent un rôle très important et unique parce que la plupart des espèces d'esturgeons sont migratrices. Ils servent de lien entre l'océan et l'eau douce, ce qui lui confère une grande valeur écologique à bien des égards.
Différents facteurs ont mené à cette quasi-extinction de l'esturgeon chinois. Les rivières ont été bloquées par des barrages, environ 1000 km de sa route migratoire ont été coupés, alors que ce sont des zones de frais cruciales pour les jeunes poissons après l'éclosion, explique le professeur Wei.
Après le barrage des Trois Gorges, le fleuve Yangtze pénètre dans les plaines où le lit du fleuve devient boueux, ce qui n'est pas propice à leur reproduction. Cette rareté des habitats appropriés les met en danger. Mais la surpêche, les modifications de l'embouchure des fleuves et les conditions océaniques ont également contribué à leur déclin.
Préserver l'espèce pour maintenir la diversité génétique globale est aujourd'hui primordial. Bien que la conservation artificielle puisse maintenir la survie de l'esturgeon chinois au fil du temps, elle est incomparable à la conservation naturelle de cette espèce en voie d'extinction. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Enfin, la doyenne de l'humanité, une Espagnole, est décédée aujourd'hui chez elle dans le nord-ouest du pays. Maria Brañas Morera avait 117 ans. Elle avait survécu à la pandémie de grippe espagnole en 1918, aux deux guerres mondiales, à la guerre civile espagnole ainsi qu'au Covid, le Covid qu'elle avait contracté, Stéphane, à l'âge de 113 ans.
C'était le journal avec Gilles Moreau. Merci Gilles. 15h09 ici à Paris, 9h09 à Port-au-Prince.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques. Stéphane Genest.
C'était hier lundi à Solino, quartier de Port-au-Prince, des habitants qui manifestent pour réclamer un appui des forces de l'ordre pour pouvoir défendre leur quartier attaqué par des gangs depuis des jours. La manifestation initialement pacifique a été réprimée par les forces de l'ordre qui ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les participants. La capitale haïtienne toujours en proie aux gangs. Et c'est dans ce contexte que l'état d'urgence sécuritaire instauré le 17 juillet dernier a été renouvelé pour un mois, étendu également à d'autres zones, notamment au département du Centre et des Nippes. Décret qui interroge Franz Duval du journal Le Novelliste. Est-ce un simple hasard du calendrier ou une réponse à la colère des habitants de Solino ? Le Novelliste qui ajoute que si l'état d'urgence a certes été renouvelé pour un mois, dans les faits, l'insécurité s'étend et les aides promises se font attendre désespérément. L'agence en ligne Alter Press fait aussi écho de ces manifestations. Des barricades de pneus enflammées, hier lundi, en divers endroits du centre-ville de Port-au-Prince, rapporte-t-elle. Solino, un cas parmi d'autres, puisqu'on peut aussi citer Carrefour et Gressier à l'ouest de Port-au-Prince. Dans ces deux localités, au moins 66 personnes ont été assassinées ou portées disparues. 46 femmes et filles ont subi des violences sexuelles et plusieurs centaines de maisons ont été pillées et incendiées d'après le Réseau national des droits humains. Des cas loin d'être isolés, les habitants de Gantier et de Fonds-Parisien subissent eux aussi la fureur des gangs, comme le dénonce le CADO, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Marine Le Bègue s'est entretenue avec son coordinateur général Arnel Rémy, avocat au barreau de Port-au-Prince.
Au moment où je vous parle, les communes de Gantier et de Fonds-Parisien sont sous le contrôle du gang de 400 Marozo et la douane a été prise d'assaut. Le commissariat a été détruit et il n'existe pour le moment actuel aucun édifice représentant l'État haïtien dans ces communes. Ils brûlent tout sur leur passage. Je n'ai pas pu rencontrer, mais j'ai parlé à beaucoup d'habitants résidant à Gantier. Et il y a un ancien maire de Gantier qui a été torturé puis assassiné. Les habitants de Gantier sont obligés de fuir leur maison. Mais les bandits profitent de ces comportements pour entrer, pour pénétrer les maisons des individus pour piller. Bon nombre de maisons sont incendiées à Gantier. Maintenant, si vous osez tenir tête au gang La Mensongeuse, vous êtes ou bien vous êtes violé si vous êtes une fille, ou bien vous êtes tué si vous êtes un garçon. Donc c'est le chaos total. C'est le chaos total. C'est le désordre, c'est l'anarchie. Les bandits instaurent leur poste de péage. Les bandits sont armés. Les minibus faisant le transfert de Port-au-Prince cap haïtien sont obligés de payer les postes de péage. Donc c'est pour vous donner une idée de la situation actuelle. Maintenant, tout est sous le contrôle des bandits. Voilà.
La situation que vous décrivez, elle est catastrophique. Pourtant, une première partie de la force multinationale composée de policiers kényans a été déployée dans le pays pour lutter aux côtés de la police nationale contre ces violences. Comment vous expliquez qu'ils n'interviennent pas ?
Non, mais écoutez, aucune présence policière dans ces communes, aucune. Maintenant, les Kenyans avaient tenté de faire une intervention. Maintenant, ils sont vite repartis parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas assez de matériel pour contrecarrer les gangs de 400 Marozo. Les Kenyans ne connaissent pas le territoire haïtien. Non, ils sont simplement des touristes. Ils n'ont pas de moyens pour effectuer des opérations satisfaisantes. Maintenant, plus d'un se pose cette question. Comment peut-on contrecarrer ces bandits si on n'a pas d'hélicoptère pour faire des interventions aériennes? Donc, il faut doter la police de drones, de matériel sophistiqué, d'armes sophistiquées, d'hélicoptères, de camions de patrouille, camions de transport, pour permettre aux autorités de faire des opérations réussies. Maintenant, je disais que si on prenait un quart ou bien une moitié du montant alloué à la mission, mais on achète des matériels à la police, je suis sûr et certain que la police pourrait donner des satisfactions. Mais nous sommes en période d'état d'urgence et l'État ne fait rien.
Et la justice dans cette situation, qu'est-ce qu'elle fait ?
Au moment où je vous parle, la justice haïtienne souffre. Nous-mêmes, au niveau du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, on mène un plaidoyer pour essayer de nous battre pour un renforcement de la justice haïtienne. Maintenant, le banditisme affecte le fonctionnement judiciaire. Les juges, les avocats ne peuvent accéder au cours et aux tribunaux. C'est grave. Dans la commune de Delma, ça fait plus de 6 mois qu'un tribunal ne fonctionne pas, qu'un tribunal de paix ne fonctionne pas. 6 mois. Et dans la juridiction de Port-au-Prince, nous avons 10 tribunaux. 9 sont contrôlés par des bandits. Dans la juridiction de Port-au-Prince, nous avons Cité Soleil, Gressier, Carrefour, et quoi des missions, quoi des bouquets, Delma, Cabaret, tous ces tribunaux ont été obligés de fermer leurs portes parce que les bandits contrôlent la zone. On ne peut accepter une telle situation parce que c'est une violation des droits fondamentaux de la personne humaine, le droit d'accès à la justice. C'est Si le tribunal ne fonctionne pas, c'est le règne de l'impunité.
Arnel Rémy, avocat au barreau de Port-au-Prince, joint par Marine Le Bègue pour RFI. Les autorités, elles, multiplient les promesses sur la sécurité en Haïti. Gary Conille, le Premier ministre, demande du temps à la population pour que la sécurité revienne dans les quartiers et les faubourgs de la capitale Port-au-Prince.
RFI. The world's voices.
8h14 à Washington. Ils étaient des milliers hier dans cette ville pour applaudir les pontes du Parti démocrate américain. Ils sont réunis à Chicago, au nord des États-Unis, à l'occasion de la convention du parti pour investir officiellement Kamala Harris dans la course à la présidentielle américaine. Kamala Harris s'y est d'ailleurs exprimée et ce n'était pas prévu.
This is going to be a great week.
Ça va être une super semaine. Et je veux qu'on commence par remercier notre incroyable président Joe Biden qui va parler un peu plus tard ce soir. Joe, merci d'avoir été un dirigeant sans précédent. Merci pour votre vie donnée au service de notre pays et pour tout ce que vous allez continuer de faire. Nous vous serons éternellement reconnaissants.
Kamala Harris qui remercie Joe Biden dans une salle survoltée qui a d'ailleurs ovationné le président américain. We love you, Joe. Voilà ce que scandent les participants. Joe Biden donc ovationné, applaudi, remercié. Écoutez sa prise de parole.
I gave my best to you for 50 years, like many of you.
J'ai donné le meilleur de moi-même. Pendant 50 ans, comme beaucoup d'entre vous, je me suis donné corps et âme à notre nation. Et en retour, j'ai été remercié des millions de fois par le soutien du peuple américain. J'ai été trop jeune pour être élu au Sénat, parce que je n'avais pas encore 30 ans, et trop vieux pour rester président. Mais j'espère que vous savez à quel point je vous suis reconnaissant. Je peux vous le dire honnêtement, et je le pense, du fond du cœur. Je vous donne ma parole de Biden. Je peux honnêtement dire que je suis plus optimiste pour l'avenir que je ne l'étais lorsque j'ai été élu sénateur des États-Unis à l'âge de 29 ans. Je suis sincère. Les amis, rappelons-nous qui nous sommes. Nous sommes les États-Unis d'Amérique.
Prise de parole de Joe Biden qui fait les titres de la presse américaine. Le New York Times rappelle que c'est lui qui était censé reprendre le flambeau du Parti démocrate lors d'une convention où c'est lui qui était censé consolider son héritage politique. Pour le Washington Post, ce discours, c'est la fin non officielle de son demi-siècle de carrière politique. Une salle chauffée à blanc qui s'en est pris aussi à Donald Trump. Le candidat républicain à la présidence américaine hué avec des cris « Lock him up, enfermez-le ». Référence à ce que Donald Trump scandait, c'était en 2016, face à Hillary Clinton, alors qu'elle était candidate démocrate, à la presse américaine qui retient aussi la présence d'Alexandria Ocasio-Cortez. À la tribune de cette convention démocrate à Chicago, la représentante du parti s'en est violemment pris à Donald Trump, justement.
Nous savons que Donald Trump vendrait ce pays pour un dollar si cela lui permettait de se remplir les poches et de graisser la patte de ses amis de Wall Street. Une bonne fois pour toutes, j'en ai assez d'entendre qu'un briseur de grève à deux balles se considère plus patriote que la femme qui se bat chaque jour pour sortir les travailleurs des griffes des cupides qui s'en prennent à notre mode de vie. La vérité, Don, c'est que tu ne peux pas aimer ce pays si tu ne te bats que pour les riches et les grandes entreprises. For the
wealthy and big business. Prise de parole d'Alexandria Ocasio-Cortez lors de cette convention démocrate. Elle continue jusqu'à jeudi. Au programme aujourd'hui, mardi, notamment la prise de parole de Barack Obama et de son épouse. 15h18 à Paris, 9h18 à Caracas.
RFI. La radio del mundo.
On part au Venezuela, où le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia se dit prêt à dialoguer en vue d'une transition avec Nicolas Maduro, demandant au président réélu de se mettre de côté. Urrutia, qui, je vous le rappelle, revendique la victoire à la présidentielle. C'est dans ce contexte que le Parlement du pays, où le pouvoir dispose de pratiquement tous les sièges, examine aujourd'hui un projet de loi contre le fascisme. Officiellement, il s'agit de mieux défendre le peuple, mais de nombreux observateurs y voient des mesures liberticides destinées à réprimer. Et cette situation politique au Venezuela fait craindre le pire pour les habitants. Le pays vit et traverse une crise socio-économique grave depuis maintenant une quinzaine d'années. En 15 ans, ce sont plus de 7 millions de personnes qui ont fui leur pays pour espérer trouver un futur meilleur à l'étranger. Et ce chiffre pourrait d'ailleurs encore augmenter. Reportage signé Alice Campagnol à Caracas.
Tous les Vénézuéliens, sans exception, ont un proche qui vit à l'étranger. Plus de 7 millions de personnes, c'est un tiers de la population. Le Venezuela est souvent décrit comme un pays d'enfants et de personnes âgées, ce que l'on a laissé derrière soi pour aller tenter sa chance ailleurs. Et Sylvia, mère de famille, rencontrée lors d'une manifestation de l'opposition, ne veut pas vieillir loin de ses enfants.
Ce n'est pas le futur que l'on veut pour nos enfants. Ma fille m'a dit que si ces gens restaient au pouvoir, elle partait l'an prochain. Ce n'est pas ce que je veux.
Aujourd'hui, comme la fille de Sylvia, beaucoup de jeunes pensent à rejoindre cette diaspora si la situation politique n'évolue pas.
J'ai prévu d'aller étudier à l'étranger. Je ne peux pas vivre dans un pays où il n'y a pas de travail. Et peu importe qui gagne les élections, ce sont les mêmes qui restent en place.
Mon frère, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Et mes amis, ils vivent tous à l'étranger. Et si rien ne change dans le pays, la prochaine à partir, c'est moi. Mais je n'en ai pas envie.
Georgina est de ceux-là. On retrouve la jeune femme de 29 ans chez elle. Cela fait quelque temps qu'elle pense à partir.
J'ai un diplôme d'ingénieur en chimie, mais je n'ai pas pu travailler dans ce domaine. Et au-delà de ça, nous vivons dans un contexte trop instable. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Par exemple, quand il y a eu la coupure de courant nationale, j'ai passé plus d'une semaine sans électricité. Je sais bien que tout ne sera pas rose si je pars vivre à l'étranger, mais ce serait quand même plus stable, avec moins d'insécurité aussi. Pour toutes ces raisons, eh bien, je pense à partir. J'ai pensé à l'Espagne pour la langue, évidemment, mais il y a beaucoup de Vénézuéliens là-bas. Donc j'ai pensé à l'Allemagne, demander un visa étudiant, apprendre la langue et puis chercher un travail comme ingénieur.
Elle est de tous les appels à manifester. Et si la jeune femme espère toujours un changement politique, elle se prépare pourtant à tout.
Je ne veux plus vivre en dictature. Je ne veux plus vivre dans la situation dans laquelle nous sommes. Je veux de la stabilité, de la sécurité. Je veux pouvoir m'épanouir professionnellement et personnellement. J'ai beaucoup d'espoir que nous parvenions à sortir de cette dictature. Mais s'ils ne quittent pas le pouvoir, je sens que la situation va empirer. L'insécurité va augmenter de nouveau, les prix aussi, c'est sûr. Et donc tout ça fait ressurgir en moi l'idée de partir.
Pour le président de l'Observatoire de la diaspora vénézuélienne, Thomas Paez, qui vit en Espagne, le cas de Georgina est assez typique.
Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas dire ce qu'il va se passer. Est-ce que les gens vont partir à cause de ce résultat ? Non, je ne crois pas, mais cela va accélérer le projet de personnes qui avaient déjà pensé à émigrer, en créant un contexte très défavorable économiquement, politiquement, socialement et institutionnellement. Et en plus, les gens qui partent ont l'âge de travailler et de faire des enfants.
Mais déjà avant ce résultat de la présidentielle mis en doute dans le pays et à l'étranger, la migration des Vénézuéliens était l'une des plus importantes au monde. Elle continue aujourd'hui, plus de 1000 personnes quitteraient le pays chaque jour. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et dans une vidéo postée hier lundi sur les réseaux sociaux, Edmundo González Urrutia, le chef de file de l'opposition, se dit prêt au dialogue. Il appelle le président Nicolas Maduro à respecter le vote des Vénézuéliens. Écoutez-le.
Monsieur Nicolas Maduro, le peuple est fatigué de tant d'abus et de corruption. Monsieur Nicolas Maduro, vous êtes le responsable de tant de pauvreté et de douleur. Vous et votre gouvernement, vous devez vous retirer et faire le nécessaire maintenant pour commencer une transition en paix. Chaque jour où vous entravez la transition démocratique, les Vénézuéliens souffrent d'un pays en crise et sans liberté. S'accrocher au pouvoir ne fait qu'exacerber les souffrances de notre peuple.
Edmundo González Urrutia, le chef de file de l'opposition vénézuélienne. C'était il y a un an en Équateur, un référendum inédit. Près de 59% des électeurs avaient voté pour le démantèlement des puits de pétrole situés dans le parc naturel amazonien du Yasuni, connu pour son extraordinaire biodiversité. La justice a donné un an à l'État pour retirer les installations pétrolières, mais les puits sont toujours là. Bonjour Raphaël Morane.
Bonjour.
Raphaël Morane, les autorités ne sont pas vraiment pressées visiblement.
Oui, c'était une victoire pour les défenseurs de l'environnement en Équateur. Pour
pourtant, un an plus tard, les puits de pétrole des trois gisements du parc Gasuni sont toujours en fonctionnement. Ils fournissent environ 4 millions de dollars par jour de recettes dans un pays sous perfusion du FMI. Les gouvernements successifs ont tout fait pour préserver cette manne pétrolière. En mai dernier, tout de même, le président Daniel Noboa a instauré une commission pour mettre en œuvre le démantèlement de ces installations pétrolières. Esperanza Martinez, juriste et militante environnementale, s'en réjouit.
Nous savons qu'il y a eu beaucoup de discussions dans le milieu de l'industrie pétrolière pour retarder la mise en place de cette mesure. Il y a eu des pressions de certains groupes économiques pour modifier, retarder ou même annuler la décision de la Cour constitutionnelle. Mais ce décret est un pas en avant, concret, qui indique que la décision des électeurs va bien s'appliquer, qu'on va fermer ces puits de pétrole. Et il établit deux choses intéressantes. D'abord, c'est la Cour constitutionnelle qui va suivre l'application du résultat du référendum pour arrêter l'industrie pétrolière. Et par ailleurs, cette commission devra présenter des rapports réguliers à l'Assemblée nationale concernant l'avancée du processus de fermeture des puits.
À l'Assemblée nationale.
Les ONG environnementales ont mené ce combat pour le parc Gasuni main dans la main avec les Waorani, un peuple autochtone de l'Amazonie équatorienne et qui possède des terres dans ce parc Gasuni. Écoutons Juan Bai, président de la nation Waorani. Il explique à RFI pourquoi il s'est battu pour stopper l'exploitation pétrolière.
Notre peuple a été contacté par la civilisation occidentale il y a 60 ans environ. Ce premier contact a coïncidé avec le début de l'exploitation pétrolière en Amazonie. Nous avons été forcés à accepter le pétrole et avec cette industrie sont arrivés les ONG, les anthropologues, les évangélistes. Pour le gouvernement, le pétrole c'est le développement, alors que pour nous, il est synonyme de recul, de problème, de mort, de changement culturel et de perte d'identité. Pour les peuples autochtones, le pétrole n'est pas synonyme de développement.
Le démantèlement des forages pétroliers dans le parc Gasuni soulève encore des incertitudes sur le coût des opérations et le manque à gagner pour l'État. Mais pour beaucoup, il obligera l'Équateur à se passer progressivement des énergies fossiles.
Décryptage de Raphaël Moran. Merci beaucoup. 15h26 ici à Paris, l'actualité des Outre-mer avec ce retour sur cette étude démontrant un lien de causalité entre exposition au chlordécone et pathologie cardiaque. Benoît Ferrand.
Étude réalisée à Montréal, au Canada, sous la direction d'un professeur guadeloupéen et avec la participation d'une jeune doctorante, elle aussi guadeloupéenne, Alexia Fundere, que je vous propose d'écouter au micro de Jessie Blanquet.
Nous avons exposé donc des animaux, des rongeurs plus précisément, à la molécule de chlordécone qui était diluée dans de l'eau. Et il s'avère qu'en fait, l'exposition à cette molécule entraînait des lésions au niveau du cœur, du muscle cardiaque. Ces lésions étaient visibles notamment par électrocardiographie, où on voyait que le rythme cardiaque était différent de ce qui était normalement observé chez les rongeurs. Nous avons pu faire les analyses qu'il faut, la formation aussi en expérimentation animale. Nous avons pu aussi avoir la molécule de chlordécone qui reste très dangereuse. Et durant cette étude donc de 6 mois, nous avons pu avoir des résultats en une assez courte période, ce qui reste quand même impressionnant dans la recherche.
On reste en Guadeloupe avec deux autres jeunes, mais dans un domaine très différent. Oriane et Célian sont des influenceurs au service du tourisme dans l'archipel guadeloupéen. Ingrid Sausséismain les a rencontrés.
Les bons plans n'ont pas de secret pour eux. Orlane Tancon et Célian Cafournet sillonnent la Guadeloupe à la découverte de plages paradisiaques cachées ou vont à la rencontre des producteurs locaux et leurs vidéos tournent sur les réseaux sociaux. Ils sont partis d'un constat, les touristes connaissaient mieux l'île que les locaux.
Lorsqu'on a voulu justement redécouvrir notre territoire, on tapait par exemple sur Google ou sur YouTube « Quoi faire en Guadeloupe ?» Et la plupart du temps, les articles ou les vidéos qui étaient rédigées étaient faites exclusivement par des touristes. Et on trouvait ça dommage qu'il n'y avait pas le point de vue des locaux.
À 23 ans, ces jeunes Guadeloupéens 3.0 ont donné un coup de modernité dans la façon de mettre en valeur notre patrimoine sur leurs réseaux sociaux. Les deux créateurs de contenu comptabilisent plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Désormais, ils se consacrent pleinement à leur passion.
Alors on commence tout juste à pouvoir vivre en fait, de cette passion. Et en fait, cette année, on vient de terminer nos études en école d'ingénieur et on s'est dit pourquoi pas se lancer à fond pendant une année complète.
De retour au pays depuis le mois de mai, le duo souhaite continuer à valoriser les entrepreneurs guadeloupéens d'ici et d'ailleurs.
Bon après-midi Stéphane, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, très bon après-midi à vous aussi, à demain. Et c'est ainsi que se referme RFI Midi et ce journal d'Haïti des Amériques. Merci à vous de l'avoir suivi. À la rédaction en chef Benoît Almeras, merci à lui. À la réalisation Vincent Biteau, merci à lui également. L'actualité continue sur RFI, le prochain journal c'est dans une demi-heure. À demain pour RFI Midi, rendez-vous à 11h30 temps universel.
Ce mardi sur RFI.
Comment se mettre dans la tête d'un oiseau?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Saviez-vous que les corneilles adorent les frites? Comment découvrir l'intelligence phénoménale des corneilles, mais aussi des grands oiseaux migrateurs, sans oublier les pinsons et même les tourterelles? Comment approcher ces prétendues cervelles d'oiseaux pour nous inspirer de leurs intelligences plurielles?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.